de votre journée harassante de congressiste. Après le tea 5 o'clock, nous espérons ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe, comme l'on dit chez nous, ni comme Ponce Pilate dans le Credo, comme disent les Allemands, ni comme chez les Belges, arriver comme un cristal de beurre sur une frite. Mais soyons sérieux. Nous souhaitons vous introduire à la lecture directe et personnelle des grandes œuvres chrétiennes, des grandes œuvres spirituelles que la foi en Jésus-Christ a produites dans l'Église ancienne. Vous faire connaître les sources spirituelles les plus riches que l'Évangile a fait jaillir pour que vous puissiez vous y désaltérer et vous y nourrir, comme aussi procurer à d'autres cet aliment. Le but de cette conférence n'est pas de faire un exposé complet de la spiritualité chez les pères de l'Église, ce serait beaucoup trop vaste et aussi beaucoup trop général. Nous voudrions vous entretenir d'un géant des débuts de l'Église occidentale, Saint Augustin. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler des confessions de Saint Augustin. Quelques-uns, attirés par le titre prometteur, le referment quand ils s'aperçoivent qu'il n'étale pas le film de ses amours illégitimes, mais son itinéraire spirituel. Dommage, ils allaient rencontrer une vocation exceptionnelle et la seule histoire qui importe au fond, celle de l'homme qui cherche et trouve Dieu. Saint Augustin occupe une place de tout premier plan, à la fois par l'importance et la qualité de ses œuvres et par l'immense influence qu'il a exercée spécialement en Occident. Quand on aborde Saint Augustin, il convient de se prémunir contre certains obstacles qui s'opposent au contact direct de la lecture et de l'écoute. Aux yeux du lecteur, de l'historien, du théologien, Saint Augustin apparaît de prime abord pareil à une montagne très élevée, ne fût-ce que par le nombre et le volume de ses œuvres. 16 tomes dans l'édition serrée de Migne que le pasteur Pierre Marcel a eu la bonne idée d'offrir à la bibliothèque, et 34 dans l'édition Vivet. Théologiquement, si Basile de Césarée, Grégoire de Nazianz, Grégoire de Nice, qui ont illustré l'Église grecque, que les trois que nous venons d'ailleurs d'étudier avec les étudiants en licence durant le premier semestre, théologiquement, si Basile, Grégoire de Nazianz et Grégoire de Nice sont comme trois belles montagnes qui forment le massif des Cappadociens, Augustin, à lui tout seul, est un massif montagneux qui comprend plusieurs sommets. Telle est d'ailleurs la comparaison qui revient souvent sous la plume des historiens. Brown écrit dans sa vie de Saint Augustin : j'ai le sentiment aigu de m'être aventuré à mi-flanc d'une paroi rocheuse. Je me situe, bien sûr, au-dessus des plaines que sont les devoirs quotidiens de l'évêque Augustin, mais bien en contrebas des hautes spéculations trinitaires. Hans von Kappenhausen écrivait de son côté « Aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte sur les multiples contreforts d'une montagne dont la crête semble fermer presque entièrement derrière nous l'horizon de l'histoire de l'Église. » Avec cette conférence, cette méditation, nous allons approcher et pénétrer dans ce massif, admirer les cimes sans prétendre en faire l'ascension. Aux audacieux parmi vous de s'y risquer pour y escalader, pour y explorer plus avant. Ce sentiment d'élévation et de grandeur se renforce encore quand on jette un regard sur l'influence que saint Augustin a exercée au cours des âges. La montagne a engendré d'autres montagnes, parfois presque aussi élevées qu'elles. Saint Augustin a donné lieu à de continuelles relectures vivantes de ses œuvres qui ont ainsi engendré de nouvelles œuvres théologiques et spirituelles de grande envergure. Citons entre autres la spiritualité monastique du Moyen-Âge avec Saint Bernard et les Victorins, les sentences de Pierre Lombard, les sentences de Pierre Lombard qui ont nourri tout le Moyen-Âge, qui sont devenues le manuel de la théologie scolastique, aussi les œuvres de Saint Bonaventure, les œuvres de Saint Thomas d'Aquin, je sais qu'on m'appelait Thomas d'Aquin dans le passé, alors je mélange un peu les deux, les mystiques rhénans, l'œuvre de Luther, l'œuvre de Calvin, de Jean Finius, la spiritualité française au XVIIe siècle, etc. Le contact avec saint Augustin, avec les œuvres de saint Augustin et avec la littérature qui s'y rajoute, donne aussi l'impression d'une mer ou d'un océan à parcourir. Ses œuvres sont si nombreuses, les aspects et les dimensions de sa pensée si multiples, sa profondeur et son étendue tellement vastes. Mais nous ne sommes pas tenus de parcourir toute la mer que représentent les œuvres de saint Augustin. Nous ne sommes pas tenus d'en boire toute l'eau, mais seulement assez pour nous désaltérer et être conduits à la source première qu'il a alimentée lui-même, la source de l'Esprit Saint s'écoulant par les canaux de la foi et de la charité. Ceci est d'autant plus vrai que la pensée augustinienne a été justement comparée par Pascal soi-même à une sphère dont les points convergent vers le centre. Il suffit de suivre un point pour être conduit au centre, et ce centre, c'est la grâce et la charité. Notre but est humble: établir le contact entre saint Augustin et vous, en vous indiquant les principaux chemins qui vous feront progresser dans sa pensée et en tirer profit, vous donner le goût du pain évangélique, comme il aurait dit, et que saint Augustin a su dispenser largement à ses fidèles d'Hippone et à ses innombrables disciples. Un de ceux-ci lui écrivait: « Ô abeille de Dieu, véritablement habile à faire un miel plein du nectar divin et d'où s'écoule la miséricorde et la vérité. Vous vous faites si bien l'écho de ce que le Seigneur vous chante et vous y répondez si bien que tout ce qui part de sa plénitude pour venir jusqu'à nous reçoit plus d'agrément en passant par votre beau langage, votre netteté rapide, votre fidèle, chaste et simple ministère. » C'est la lettre. Le but que nous nous fixons, que nous visons, et donc que vous arriviez à vous placer à l'égard de saint Augustin comme l'étaient ses auditeurs. Le peuple de sa ville a-t-il prêché et expliqué régulièrement les Écritures, ou comme ses amis ou ses disciples pour qui il a écrit ses principales œuvres, soit dans ce contact direct qu'impliquent les relations d'auditeur à prédicateur, de disciple à pasteur, d'ami à ami. L'important pour nous est que saint Augustin nous aide à trouver un chemin vers les sommets où brille la lumière qu'il a éclairée lui-même, comme fait un guide ou un maître. C'est de puiser dans ses œuvres la nourriture pour nous soutenir sur la route menant au but qu'il nous montre, la vision de Dieu, la joie de la vérité, le repos en Dieu. Les confessions de saint Augustin décrivent la marche d'Augustin vers Dieu et la voie qui conduit à lui par le cœur qui apprend à aimer Dieu et à pratiquer sa loi, soit à marcher effectivement vers lui. Pour étudier la découverte de Dieu par saint Augustin, nous choisirons deux textes des confessions, ouvrage qu'il a rédigé entre 397 et 401, donc au début des années de son épiscopat, deux textes qui décrivent directement la découverte de Dieu. Et c'est les textes que vous trouverez sur ce document génial qui est maintenant entre vos mains. Sinon, précipitez-vous ici, vous l'aurez gratuitement. L'analyse de ces textes fournira la matière des deux parties de cette communication. Ces deux grands textes se situent l'un en amont, l'autre en aval de la scène capitale du jardin à Milan. Le premier texte est la découverte de la lumière éternelle dans l'illumination de Milan, qui se trouve au livre 10, au livre 7, chapitre 10, donc avant la scène, la fameuse scène du jardin. Le deuxième texte, c'est la contemplation d'Ostie avec Monique, qui se situe au livre 9, chapitre 10, donc après la scène fondamentale du jardin. La scène du jardin de Milan, en quelque sorte, joue le rôle de pivot fondamental entre ces deux textes. Donc, première partie, la découverte de la lumière éternelle dans l'illumination de Milan, et nous allons commencer en haut à l'extrême gauche. Notre méthode, selon ce qui convient à une conférence de spiritualité, s'attachera au texte de saint Augustin d'abord, l'éclairera ensuite par les passages différents des confessions ou d'autres œuvres de saint Augustin ou d'autres auteurs si nous avions le temps, notamment Plotin, etc. Mais dans cette recherche, nous garderons toujours présent à l'esprit rejoindre, à l'aide du texte, l'expérience de Dieu que veut exprimer et transmettre saint Augustin. Prenons le texte de gauche, le texte du livre 7, 10, et ça sera aussi le début du 11, c'est ce qui est dans la colonne au milieu. Il y aura, voyez mon découpage, une introduction, et puis il y aura trois parties, quatre parties indiquées par des petits. L'introduction est brève. Et averti par ces livres de revenir à moi-même, j'entrai dans l'intimité de mon être sous ta conduite. Je l'ai pu parce que tu t'es fait mon soutien. Le texte commence donc par une introduction indiquant la voie d'intériorité suivie par Augustin et ce qui l'y a amené, à savoir la lecture des livres néo-platoniciens dont il vient de parler. Et le secours divin, l'aide de Dieu qui le conduit et le soutient. Et averti par ses livres. Ces mots évoquent les passages précédents où Augustin établit la comparaison entre le prologue de l'évangile de saint Jean et l'enseignement des livres néo-platoniciens sur Dieu et sur le Verbe. Derrière ces textes, il y a les lectures néo-platoniciennes d'Augustin et la question tant débattue de l'influence du néo-platonisme sur sa conversion et sur sa pensée. Augustin s'est-il d'abord converti au néo-platonisme et ensuite plus ou moins longtemps après à la foi chrétienne? Ou avait-il déjà recouvré la foi, même si elle était encore infirme, quand il aborda la lecture des livres néo-platoniciens, de sorte que la conversion racontée dans les confessions était vraiment chrétienne? Nous n'aborderons pas ici ce problème. Il nous entraînerait trop loin et nous détournerait de notre but. La réponse est d'ailleurs inévitablement déterminée par la conception qu'on se fait des rapports entre la philosophie, la raison et la foi chrétienne. Ce qui nous intéresse d'abord est d'écouter saint Augustin. Le texte. J'en suis aux petites fins. C'est très difficile de le voir, hein? C'est là où il y a la tâche. J'entrai et je vis avec l'œil de mon âme, quel qu'il fût, au-dessus de cet œil de mon âme, au-dessus de mon intelligence, la lumière immuable, non pas celle qui est ordinaire et visible à toute chair, ni une sorte de lumière du même genre qui serait plus grande et qui aurait, par exemple, beaucoup, beaucoup plus de splendeur dans son resplendissement et remplirait tout de sa grandeur. Non, ce n'est pas cela qu'elle était. Mais autre chose, bien autre chose que toutes nos lumières. Elle n'était pas au-dessus de mon intelligence, comme de l'huile au-dessus de l'eau, ni comme le ciel au-dessus de la terre, mais elle était au-dessus parce que c'est elle-même qui m'a fait, et moi au-dessous parce que j'ai été fait par elle. Qui connaît la vérité connaît cette lumière, et qui la connaît, connaît l'éternité. La charité la connaît. Ô éternelle vérité et vraie charité et chère éternité, c'est toi qui es mon Dieu, après toi que je soupire jour et nuit. Augustin décrit comment cette lumière est supérieure à l'intelligence et quelle est sa nature, à la fois vérité, charité, éternité. Il commence d'abord par la description de la lumière divine. J'entrai et je vis. Je vis. C'est la première des notations qui expriment les actes de la vue. Il y en a d'autres, mais cela prendrait du temps. Il y a aussi les actes de l'ouïe. Il y aura les actes de l'ouïe, avec les mentions, par exemple, j'ai dit, tu as crié, j'ai entendu. Tous ces verbes, de la vue et de l'ouïe, expriment une expérience personnelle par le moyen des deux sens particulièrement propres à la connaissance. La vue, donnant une connaissance directe, et l'ouïe, donnant une connaissance indirecte par l'intermédiaire d'une parole suscitant la foi. Je vis. Il s'agit d'une vision de l'esprit. Je vis par l'œil, avec l'œil de mon âme. Je vis avec l'œil de mon âme, quel qu'il fût, c'est-à-dire quelle que fût sa qualité. L'expression indique la faiblesse du regard. Je vis avec l'œil de mon âme, quel qu'il fût. au-dessus de cet œil de mon âme, au-dessus de mon intelligence. L'intelligence est l'esprit même dont la raison et la volonté sont les deux facultés, la substance pensante et voulante. Trois choses sont nécessaires pour connaître. Avoir des yeux, regarder et voir. Il ne suffit pas d'avoir des yeux, il faut encore avoir les yeux purs. Et le regard doit avoir la stabilité de la vertu. L'aspect intellectuel ne peut pas se séparer du moral, du volontaire. Il y a, par exemple, un texte des Soliloques à ce propos, il date de l'hiver 386. « La raison qui te parle te promet de manifester Dieu à ton intelligence comme le soleil se manifeste à tes yeux. L'intelligence a aussi ses yeux. Ce sont les sens de l'âme. Les vérités les plus solides de la science ressemblent aux objets que le soleil éclaire et rend visible la terre, par exemple, et toutes les choses terrestres. Mais c'est Dieu lui-même qui éclaire. Moi, la raison, je suis aux intelligences ce que le regard est aux yeux. Avoir des yeux est autre chose que regarder. Regarder est autre chose que voir. L'âme a donc besoin de trois conditions. Avoir des yeux dont elle puisse se bien servir. Regarder, voir. Un œil sain, cela équivaut à une intelligence exempte de toute souillure d'ordre physique, c'est-à-dire garantie, purifiée de toute passion pour les choses périssables. Cet affranchissement, seule la foi peut le lui procurer. Poursuivons le texte des Confessions. Je vis la lumière immuable. Non pas celle qui est ordinaire et visible à toute chair, ni une sorte de lumière du même genre qui serait plus grande et qui aurait par exemple beaucoup, beaucoup plus de splendeur dans son resplendissement et remplirait tout de sa grandeur. Non, ce n'est pas cela qu'elle était, mais autre chose, bien autre chose que toutes nos lumières. Après avoir expliqué l'objet de sa vision, la lumière qui apparaît au-dessus de son intelligence. Augustin essaie de la décrire par une comparaison avec les autres lumières, puis en précisant sa supériorité. Cette lumière est autre que celle du soleil qui est visible à toute chair et dont la lumière est si forte en Afrique. Même si on imagine le soleil beaucoup plus grand et plus resplendissant, la différence est radicale, c'est tout autre chose que toutes nos lumières. Elle n'était pas au-dessus de mon intelligence, comme de l'huile au-dessus de l'eau, ni comme le ciel au-dessus de la terre, mais elle était au-dessus, parce que c'est elle-même qui m'a fait, et moi au-dessous, parce que j'ai été fait par elle. Qui connaît la vérité, connaît cette lumière, et qui la connaît, connaît l'éternité. La charité la connaît. La supériorité de cette lumière est précisée à l'aide de comparaisons sensibles qui servent de point d'appui pour aider l'œil à apprécier les dimensions. L'huile qui surnage sur l'eau, le ciel au-dessus de la terre. Mais la différence est beaucoup plus radicale et touche à l'être même d'Augustin. Elle était au-dessus de moi parce que c'est elle-même qui m'a fait et moi au-dessous parce que j'ai été fait par elle. C'est là une expérience existentielle au plein sens du terme. Elle est d'ailleurs incommunicable par les mots seuls, car seule la vérité qui est source des idées et des mots peut la faire connaître. Qui connaît la vérité connaît cette lumière, la charité la connaît. Vient ensuite la notation des riches qualités de cette lumière. Elle est en même temps vérité, éternité, charité. Ô éternelle vérité et vraie charité et chère éternité. Vérité, éternité, charité, c'est la conjonction de trois grands thèmes augustiniens. La convergence unifiante de trois mouvements de l'âme augustinienne issue des trois facultés de l'intelligence, l'aspiration à la vérité par l'intelligence, l'amour issu de la volonté, l'éternité qui répond à l'être et à la mémoire. c'est toi qui es mon Dieu, après toi que je soupire jour et nuit. C'est la confession. Et tu es mon Dieu, suivi de l'expression du désir violent par le psaume, je soupire après toi jour et nuit. Et mine de rien, nous voici au petit 2. Quand pour la première fois je t'ai connu, tu m'as soulevé pour me faire voir qu'il y avait pour moi l'être à voir et que je n'étais pas encore être à le voir. Tu as frappé sans cesse la faiblesse de mon regard par la violence de tes rayons sur moi et j'ai tremblé d'amour et d'horreur. Et j'ai découvert que j'étais loin de toi dans la région de la dissemblance, comme si j'entendais ta voix me dire des hauteurs, je suis l'aliment des grands, grandis et tu me mangeras, et tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. J'ai reconnu que pour son iniquité, tu as corrigé l'homme et fait se dessécher mon âme comme une toile d'araignée. Augustin détaille donc ensuite les effets de cette vision sur lui. Quand pour la première fois je t'ai connu, tu m'as soulevé. Il exprime le sentiment de son incapacité à voir et l'amour et l'horreur à la fois causés par son éloignement de Dieu dans le péché. La manifestation de Dieu que rapporte ici saint Augustin est confirmée par maints passages parallèles et a une importance extrême pour sa vie et pour son itinéraire spirituel. Plus qu'une découverte faite au terme d'une ascension, il s'agit d'une manifestation dont Dieu a l'initiative, Augustin, le théologien de la grâce, et dont la force vient de lui, comme l'indiquent les termes employés. Tu m'as soulevé pour me faire voir, tu as frappé la faiblesse de mon regard par la violence de tes rayons. Cette manifestation se situe au-delà des idées et des mots, au niveau de la perception primitive de la réalité et de l'existence qui est sous-jacente à la vie intellectuelle, sentimentale et morale. C'est à ce niveau de la perception première de l'être que tout se passe. Ainsi a-t-il dit que la lumière était au-dessus de lui parce qu'elle m'a fait, et lui au-dessous d'elle parce que j'ai été fait par elle. La puissance de cette manifestation de Dieu se montre par la force des sentiments contrastés qu'elle provoque. J'ai tremblé d'amour et d'horreur. Ces deux sentiments opposés se retrouveront souvent dans les récits de conversion, comme chez Claudel par exemple. Émotion bien douce où se mêlait cependant un sentiment d'épouvante et presque d'horreur. La puissance de cette manifestation se montre aussi dans la distance qu'elle établit entre Dieu et Augustin. Elle réside d'abord au niveau de la perception de l'être. Augustin voit qu'il y a quelque chose, l'être, avec un E majuscule à voir, mais qu'il est incapable de le voir, qu'il n'est pas être à le voir. La distance est là. Au moment même où Dieu se manifeste à lui, Augustin perçoit la distance qui le sépare de Dieu. Cette distance a plusieurs dimensions. La distance est de soi d'ordre spatial, et dans le récit d'Augustin, elle est prise d'abord dans le sens de l'espace et de la hauteur. La lumière était au-dessus de son intelligence, il découvre qu'il est loin de Dieu, il entend Dieu lui parler des hauteurs, lui crier de loin. Mais le fond de cette distance est ontologique. La lumière était au-dessus de lui parce qu'elle l'a fait, et lui en dessous parce qu'il a été fait par elle. Il voit qu'il y a l'être à voir sans être encore capable de le voir. Cette distance est aussi morale, à cause de l'impureté du regard qui empêche de le voir, qui en rend incapable, comme le dit très bien ce texte du De Utilitate Credendi, écrit peu avant les confessions, en 391-92. Jour et nuit, je m'efforce de le contempler, celui à qui je me suis consacré. Mais à cause de mes péchés et de ma routine, le regard de mon âme souffre encore de la blessure de mes vieilles idées. Je reconnais donc mon impuissance et souvent je pleure dans ma prière. Les yeux qui viennent de s'ouvrir, après être restés longtemps sans voir dans l'obscurité, clignotent, se détournent, refusent la lumière que pourtant ils désirent. Surtout si l'on essaie de leur faire regarder le soleil. C'est ce qui m'arrive à présent. Je ne nie pas qu'il existe pour l'âme un bien vraiment unique et ineffable, visible à la pensée, mais j'avoue, en pleurant et gémissant, que je ne suis pas encore capable de le contempler. La distance vient de ce que, pour son iniquité, Dieu a corrigé l'homme, et plus loin il parlera du poids de l'habitude charnelle. Cette distance rejette Augustin dans ce qu'il nomme la région de la dissemblance. L'expression vient de Platon qui parle dans la Politique de l'océan sans fond de la dissemblance, où le monde, abandonné sans direction au désordre, risque de s'abîmer. Chez Plotin, cette région devient le bourbier obscur où l'âme s'enfonce jusqu'au mal absolu quand elle est toute plongée dans la matière et s'en rassasie. Pour Augustin, c'est lorsqu'elle se retourne vers Dieu et commence à le connaître que l'âme saisit l'abîme infini qui la sépare de lui. C'est ça la région de la dissemblance. C'est là, non pas comme un simple espace spirituel, mais comme une différence ontologique radicale, la différence de la créature par rapport au créateur. Cette région de la dissemblance est à mettre en relation avec la région lointaine vers laquelle est parti l'enfant prodigue dans la parabole évangélique, à mettre en relation aussi avec l'obscurcissement dans l'homme pécheur, grand thème patristique ici, de l'image et ressemblance de Dieu donnée par la création et qui sera renouvelée en lui par le Verbe, image parfaite du Père. Et d'ailleurs, cette expression « région de la dissemblance » fera un véritable tabac dans l'histoire de l'Église. Elle continuera à être employée par les auteurs spirituels, notamment Guillaume de Saint-Thierry et Saint-Bernard, et elle deviendra classique. Si cette distance est spatiale, ontologique et morale, elle est aussi vitale. Elle relève de ce qu'on pourrait nommer la biologie spirituelle. « Je suis l'aliment des forts, lui dit Dieu, grandis et tu mangeras. » C'est la distance comme de l'enfant à l'adulte. Mais attention ici, ces différentes distances sont intimement liées entre elles, pour saint Augustin, et ne forment qu'un unique tissu dans l'expérience. Troisièmement, petit 3, vient ensuite la question de l'existence de Dieu, plus certaine que l'existence propre. J'ai dit et j'ai dit. Est-ce donc que la vérité n'est rien pour n'être répandue ni dans le fini ni dans l'infini des espaces de lieu? Tu as crié de loin, mais si, je suis moi celui qui suis. Et j'ai entendu comme on entend dans le cœur, et il n'y avait pas, absolument pas à douter, j'aurais plus facilement douté de ma vie que de l'existence de la vérité qui, à travers le créé, se fait voir à l'intelligence. Jusqu'à ce jour, Augustin n'arrivait pas à concevoir un être, Dieu, la vérité, qui ne fût pas étendu dans l'espace. Il dira « Mon cœur était encrassé, je ne possédais pas moi-même de vision claire de moi-même. Aussi tout ce qui n'avait pas un espace d'une certaine dimension pour s'y étendre, je l'estimais pur néant. » La pensée d'Augustin demeurait donc matérialiste, parce qu'il ne pouvait concevoir d'existence autre que matérielle étendue dans l'espace. D'où sa question « Est-ce que la vérité n'est rien pour n'être pas répandue dans des espaces de lieux? » La perception de l'être divin répond telle une voix en opérant un complet renversement. Je suis celui qui suis. Cette parole donne à Augustin une certitude qui l'emporte sur celle de son existence propre. j'aurais plus facilement douté de ma vie que de l'existence de la vérité. Quatrièmement, c'est en haut, colonne du milieu. Enfin, la conséquence pour l'existence des êtres par rapport à Dieu. Et ici, nous sommes déjà au chapitre 11. Et j'ai regardé tout le reste des choses au-dessous de toi, et j'ai vu qu'on ne peut pas dire ni absolument qu'elles sont, ni absolument qu'elles ne sont pas. Elles sont à vrai dire, puisqu'elles sont par toi. Seulement, elles ne sont pas, puisqu'elles ne sont pas ce que tu es, car ce qui est vraiment, c'est ce qui demeure immuablement. Or, pour moi, rester attaché à Dieu est mon bien, parce que si je ne demeure pas en lui, en moi non plus je ne le pourrai, mais lui demeurant en soi rend nouvelle toute chose. Et tu es mon Seigneur, puisque tu n'as pas besoin de mes biens. En conséquence, les choses paraissent à Augustin désormais en dessous de Dieu dans leur existence, alors qu'elles semblaient auparavant avoir seule réalité. Leur existence est rendue toute relative maintenant à celle de Dieu. Elles sont en tant qu'elles sont de Dieu, elles ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas de Dieu. Une telle expérience est un véritable tremblement de terre existentiel, un tremblement de terre spirituel, cosmique. La structure de cette expérience correspond assez près à celle de la foi, dans son mouvement intérieur. C'est l'expérience de la perception de Dieu dans son existence plus réelle que toute existence et plus certaine que l'existence propre. Perception de l'existence de Dieu comme lumière, vérité et bien supérieure, provoquant l'attrait et l'amour. C'est l'expérience de la perception de la distance entre l'homme et Dieu, comme de créature à créateur, de ténèbres à lumière, de pécheur à bonté. D'où la formation de la foi en un autre que soi, que l'homme, que toute créature, supérieure dans l'existence, la vérité, la bonté, quelqu'un capable d'agir et de transformer l'homme. C'est une perception qui se fait, cependant, dans l'obscurité et le mystère, provenant notamment de l'incapacité actuelle de voir et de connaître, due à la faiblesse et au péché. C'est la perception qui change l'orientation de la vie en causant un mouvement de tout l'être vers Dieu où celui-ci a cependant l'initiative. Il y manque toutefois encore la connaissance de la voie pour parvenir à Dieu du Christ dans son humilité. Cette déficience n'empêche pas que l'expérience rapportée soit déjà chrétienne, car Augustin connaît déjà et recherche le Christ, et l'expérience racontée va l'orienter vers le Christ, le poussant à la lecture de Paul qui le lui manifestera. Par cette illumination sur Dieu, la vie d'Augustin reçoit le pôle d'attraction vers lequel elle va s'orienter tout entière. Dès ce moment, il aperçoit le but ultime vers lequel il dirigera ses pas, ses désirs et ses efforts. Il a découvert la source du bonheur auquel il aspire et son désir en est excité avec une force toute nouvelle et il ne déviera plus de cette direction. L'amour de Dieu qui s'est ainsi formé en lui l'emportera peu à peu sur tout autre. Le chemin de la conversion est ouvert. Nous avons ici une première expérience de Dieu qui se répétera ensuite à plusieurs reprises avec une structure et des éléments semblables pour l'essentiel. L'illumination de Milan doit se comprendre moins dans sa différence avec les autres expériences de Dieu rapportées par la suite que dans leur similitude. Celle-ci est la première qui donne déjà l'essentiel et qui se développera plus tard. Si on se place dans la dynamique de la pensée augustinienne, centrée sur les actions de Dieu dans sa vie et le progrès de sa connaissance de Dieu qui en résulte, l'illumination de Milan apparaît comme le début de la conversion, une étape décisive de la découverte du vrai Dieu, le début d'un chemin et donc une expérience déjà essentiellement chrétienne et une œuvre de la grâce, au même titre que toutes les interventions de Dieu qu'il nous rapporte dans sa vie. À la suite de son expérience de 1000 ans, Augustin explique ce qui lui manquait pour atteindre et parcourir la distance qui le séparait de lui, la vraie connaissance du Christ et l'imitation de son humilité. Disciple des néo-platoniciens, il se compare à un voyageur qui aperçoit de loin, d'un sommet boisé, le but auquel il aspire, la patrie de la paix, mais qui ne connaît pas la route qui y conduit, ni ne se sent assez fort pour tenir tête aux brigands qui l'attaqueront en chemin. Augustin connaissait évidemment le Christ, mais il ne voyait encore en lui qu'un homme d'une sagesse si éminente que nul autre ne saurait lui être égalé, notamment à cause de sa naissance virginale, lui accordant une autorité spéciale pour enseigner le mépris des choses temporelles afin d'obtenir l'immortalité. Il se plaçait aussi dans la lignée de Photin, un hérétique qui refusait d'admettre une subsistance personnelle du Verbe avant l'incarnation, tout en admettant la naissance virginale. Il avait encore à apprendre la médiation du Christ, à la fois Dieu et homme, qui fait de lui l'unique voie vers Dieu et nous procure la nourriture qui soutient notre faiblesse. En particulier, dans son orgueil de philosophe, il ne connaissait pas encore et ne pouvait partager l'humilité du Verbe qui s'est abaissé en s'incarnant, et comme il le dit, se bâtissant une humble demeure avec notre limon, afin de guérir les hommes de leur orgueil et de leur faiblesse, et de les redresser et de les élever ainsi jusqu'à lui. Et bientôt, c'est la fameuse scène du jardin à Milan. Cette scène qu'il raconte dans les Confessions à la fin du livre 8. Il était dans le jardin, il entend une voix d'enfant chantonner « Tole lege, prends, lis ». Et comme il avait à côté de lui les épîtres de Paul, il ouvre le volume comme un petit évangélique pimpant et il tombe sur le passage de Romains 13, versets 13 et 14. Non, plus de ripailles et de beuveries, plus de coucheries et de débauches, plus de querelles et de jalousies, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez plus aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. La lumière viendra à Augustin de la lecture des lettres de Paul et de l'Évangile qui lui enseignent la vraie piété, les larmes de la confession, mais avec les promesses de l'Esprit-Saint et l'assurance du secours divin, avec aussi les précieuses paroles du Christ qui toujours reviennent. Venez à moi, vous qui peinez, apprenez que je suis doux et humble de cœur. Et aussi tu as caché cela aux sages et aux prudents, et tu l'as révélé aux petits. Ces paroles prennent une force particulière dans la bouche du recteur génial, du recteur génial qu'était Augustin. Remarquons que l'humilité n'est pas ici une simple vertu morale parmi d'autres, mais qu'elle acquiert chez Augustin une dimension théologique, dogmatique et même métaphysique. Elle est la condition pour connaître et suivre le Christ, le Verbe, lumière de vérité éclairant le monde et soleil de toute vérité. Bien plus, l'humilité est la qualité qui commande l'incarnation, qui provoque le Verbe à s'incarner afin de sauver l'homme. Elle commande par suite le mystère de la rédemption. C'est aussi par elle que les croyants connaissent le Christ et entrent dans son œuvre de salut. Et alors ici, c'est la deuxième partie, et la contemplation d'Hostie avec Monique. Monique, c'est Madame Mère, c'est la mère de Saint Augustin. C'est ici, nous en sommes ici. Premièrement, situation extérieure et intérieure. Dans le calme du jardin intérieur d'une maison d'Hostie, Monique et Augustin s'interroge sur la nature de la vie éternelle à laquelle leur cœur aspire et dont leur parle Paul. Voici le texte, vous le lisez avec moi, petit 1. Or, le jour était imminent où elle allait quitter cette vie, jour que tu connaissais toi, mais que nous ignorions. Il se trouva par tes soins, j'en suis sûr, par tes secrètes dispositions, que nous étions seuls, elle et moi, debout, accoudés à une fenêtre. De là, le jardin intérieur de la maison où nous logions se présentait à nos regards. C'était à Ostie, près des bouches du Tibre. À l'écart des agitations, après les fatigues d'un long voyage, nous y refaisions nos forces pour la traverser. Donc, nous parlions ensemble dans un tête-à-tête fort doux. Oubliant le passé tendu vers l'avenir, nous nous demandions entre nous, en présence de la vérité que tu es, toi, ce que pourrait être cette vie éternelle des saints que ni l'œil n'a vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur de l'homme senti monter en lui. Mais nous tenions grande ouverte la bouche de notre cœur vers les eaux qui ruissellent d'en haut de ta source, de la source de vie qui est près de toi, afin d'en être arrosé selon notre capacité et de pouvoir en quelque sorte concevoir une si grande réalité. La question posée est toute chrétienne dans son expression étant reprise des épîtres de Paul et des psaumes. L'intervention de Monique dans le dialogue lui procure un langage plus chrétien, ça va nous reposer, que philosophique, et on y sent Augustin lui-même épris de l'écriture. Il note d'ailleurs avec insistance l'action divine jusque dans les circonstances extérieures que Dieu semble avoir arrangées à dessein. Par tes secrètes dispositions, c'est celle de la providence ici, voie mystérieuse. Augustin et Monique se tiennent en présence de la vérité qui est là comme une troisième personne invisible. Dieu est près d'eux comme la source de vie dont ils espèrent être abreuvés. Le sentiment du mystère qui dépasse l'intelligence humaine, lié à la croix de notre Seigneur, est exprimé fortement dans le texte de 1 Corinthiens 2:9, cité par Augustin en évoquant son contexte. Ce dont nous parlons, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce texte comporte une forte connotation d'opposition entre la sagesse humaine et la sagesse divine révélée dans le Christ, qui est folie pour les Grecs et qui dépasse les prises de l'intelligence humaine. Nous sommes donc bien ici, dans un contexte chrétien, dans une recherche spirituelle portant directement sur le mystère de Dieu manifesté dans le Christ. Le terme de la recherche sera effectivement la sagesse. Mais celle qui vient de la foi et qui est un don de l'Esprit Saint, qui seul connaît les secrets de Dieu, comme le dit ensuite saint Paul. Cela n'empêche pas la question chrétienne de contenir, bien entendu, la question philosophique du bonheur, de la vérité, de la sagesse. Deuxième partie, vous avez la relation, la première relation de l'entretien. Et l'entretien nous amenait à cette conclusion. Le plaisir des sens charnel, si grand qu'on le veuille, si baigné de lumière corporelle qu'on le veuille, placé en face de la félicité de l'autre vie, ne supportait aucune comparaison et même ne paraissait pas digne de mention. Alors, nous élevant d'un cœur plus ardent vers l'être même, nous avons traversé degré par degré tous les êtres corporels et le ciel lui-même, d'où le soleil, la lune et les étoiles jettent leur lumière sur la terre. Et nous montions encore au-dedans de nous-mêmes, en fixant notre pensée, notre dialogue, notre admiration sur tes œuvres. Et nous sommes arrivés à nos âmes, nous les avons dépassées, pour atteindre la région de l'abondance inépuisable où tu repais Israël à jamais dans le pâturage de la vérité. C'est là que la vie et la sagesse, par qui sont faites toutes les choses présentes et celles qui furent et celles qui seront, la sagesse, elle, n'est pas faite, mais elle est comme elle fut, et ainsi elle sera toujours. et même plutôt l'avoir été et le devoir être, ne sont pas en elle, mais l'être seulement, puisqu'elle est éternelle, car avoir été et devoir être, ce n'est pas de l'éternel. Et pendant que nous parlons et aspirons à elle, voici que nous la touchons à peine, d'une poussée rapide et totale du cœur. Nous avons soupiré et nous avons laissé là attacher les prémices de l'esprit et nous sommes revenus au bruit de nos lèvres où le verbe et se commence et se finit. Mais quoi de semblable à ton verbe, notre Seigneur qui demeure en soi sans vieillir et renouvelle toutes choses. C'est la première relation de l'entretien. C'est l'ascension vers la sagesse par l'entretien mutuel, avec, comme point de départ, le plaisir des sens charnels et ensuite la montée par degrés, par rejets successifs des êtres corporels du ciel, des œuvres de Dieu en nous, de l'âme qui est en nous, pour atteindre par le contact d'un instant à la sagesse qui a fait les temps, puis redescendre de nouveau vers les paroles divines. Le sommet de la contemplation d'hostie dans la première relation est exprimé par cette phrase « Et pendant que nous parlons et aspirons à elle, voici que nous la touchons à peine, d'une poussée rapide et totale du cœur. » Alors que dans le texte, comme vous l'aurez remarqué, tout le récit est au passé, les verbes au parfait et à l'imparfait. Comme il est normal quand on raconte un événement passé. Il est remarquable que les verbes du sommet de la contemplation soient au présent. Un tel présent traduit bien un mouvement du cœur qui, dans le présent, atteint l'éternel. Et qu'on ne peut raconter et se remémorer convenablement qu'en se replaçant au présent, tandis que les autres actions sont entraînées par le temps vers le passé. Augustin, me semble-t-il, veut justement rendre par un présent une action qui a dépassé le temps et lui apporte encore, au moment où il écrit, la meilleure réponse à la question de la vie éternelle. Nous sommes parvenus ici au sommet de la contemplation augustinienne, décrit avec une grande maîtrise. C'est l'aboutissement du chemin ouvert par l'illumination tout à l'heure à Milan. Augustin atteint dans un instant, chargé d'éternité, le but auquel il aspire. Et il peut se représenter la vie éternelle comme la prolongation de ce moment unique. Ce but, cependant, et l'expérience elle-même sont placés au-delà des paroles humaines et réside dans une parole unique qui est le verbe et la sagesse même, si bien que cet instant va inévitablement être suivi d'une redescente vers les paroles humaines et vers l'expérience tout à fait quotidienne. La redescente se fait vers la parole humaine qui commence et finit et est nécessairement insérée dans le temps passé, présent et futur, à la différence de la parole de Dieu qui demeure en elle-même sans vieillir et qui, bien mieux, renouvelle toute chose, y compris la parole humaine qui s'ouvre à elle. Mais tout en redescendant vers leur dialogue humain, Monique et Augustin laissent accrocher à la sagesse éternelle les prémices de leur esprit. L'expression est reprise de l'épître aux Romains 8:23. Mais, me semble-t-il, à la différence de Paul qui parle des chrétiens ayant reçu les prémices de l'Esprit Saint, Augustin entend l'expression comme désignant les prémices de l'esprit de l'homme, sous l'action de l'esprit, soit la partie supérieure ou la pointe de l'esprit humain comprise comme fixée en Dieu par une espérance qui est déjà un commencement de possession et qui irradie dans tout l'être le désir passionné et l'anticipation de cette possession. La pointe de l'esprit reste donc fixée au port comme une ancre. L'esprit a beau revenir par contrainte vers ses navigations habituelles, il n'en reste pas moins polarisé, définitivement, et tendu vers son port d'attache définitif. Il vit à la fois déjà en ce port, par le meilleur de lui-même, et encore dans ses navigations intramondaines, par suite de son exil ici-bas. Troisième petit point, nous en sommes ici à droite, pour une fois. Et c'est le petit 3, c'est la seconde relation de l'entretien. Nous disions donc, si en quelqu'un faisait silence le tumulte de la chair, silence les images de la terre et des eaux et de l'air, silence même les cieux, et si l'âme aussi en soi faisait silence, et se dépassait ne pensant plus à soi, silence les songes et les visions de l'imagination, si toute langue et tout signe et tout ce qui passe en se produisant faisait silence en quelqu'un absolument. Car si on peut les entendre, toutes ces choses disent, ce n'est pas nous qui nous sommes faites, mais celui-là nous a faites, demeure à jamais. Cela dit, si désormais elles se taisaient, puisqu'elles nous ont dressé l'oreille vers celui qui les a faites, et s'il parlait lui-même seul, non par elles, mais par lui-même, et qu'il nous fit entendre son verbe, non par langue de chair, ni par voix d'ange, ni par fracas de nuée, ni par énigme de parabole, mais que lui-même, que nous aimons en elle, lui-même se fit entendre à nous sans elle, comme à l'instant nous avons tendu nos êtres, et d'une pensée rapide nous avons atteint l'éternelle sagesse qui demeure au-dessus de tout, si cela se prolongeait, et que ce fût retiré les autres visions d'un ordre bien inférieur, et que celle-là seule ravit et absorba et plongea dans les joies intérieures celui qui la contemple, et que la vie éternelle fut telle qu'a été cet instant d'intelligence après lequel nous avons soupiré. N'est-ce pas cela que signifie « entre dans la joie de ton Seigneur » ? Et pour quand cette joie ? N'est-ce pas pour le jour où nous ressusciterons tous sans être tous changés? C'est la seconde relation ici de l'entretien d'hostie. Elle est placée sous le signe du Verbe de Dieu et elle procède par la voix du silence pour l'écouter. Cette voix du silence passe successivement par la chair, la terre, le ciel, l'âme humaine avec ses imaginations et ses paroles, et dépasse l'écriture elle-même pour atteindre le verbe parlant par lui-même. La seconde relation de l'événement d'hostie, soit une voix négative faisant taire successivement toutes les paroles ou voix qui occupent l'oreille de l'homme, paroles extérieures et aussi paroles intérieures. La voix suivie est négative. Non par destruction de ces paroles, comme si elles étaient fausses et mauvaises, mais parce qu'en elles-mêmes, si on les comprend bien, elles invitent l'homme qui cherche Dieu à les dépasser. Ce n'est pas nous qui nous sommes faites, mais celui-là nous a faites, qui demeurera jamais, disent-elles. Le texte convient à la démarche de la prière, d'autant que cet effort de silence est animé par l'amour, que lui-même que nous aimons en elle, que lui-même se fit entendre à nous sans elle. Notons aussi que cette marche vers le silence semble bien présupposer que nous ayons les prémices de l'esprit déjà attachés à Dieu, et donc une certaine expérience de Dieu et de sa parole intime, car pourquoi ferait-on silence en son cœur si on ne savait pas par l'expérience du cœur qu'il y a quelqu'un à entendre. Toute la démarche est orientée de la parole extérieure, quand bien même exprima-t-elle la foi à la parole intérieure, prononcée par l'esprit de l'homme exprimant ses idées, vers la parole intérieure unique que Dieu prononce, que l'homme ne peut qu'écouter après avoir fait en lui le silence. La seconde relation de la vision d'hostie note en son sommet, qu'est la contemplation, la rapidité ici de l'atteinte, en contraste avec la permanence de la sagesse. Elle ajoute le caractère personnel de cette sagesse, que lui-même, que nous aimons dans ces choses, que lui-même nous l'entendions sans elle. Elle met aussi l'accent sur le caractère actif de l'intervention divine qui se passe dans le silence de l'homme face à la parole directe de Dieu. Conclusion du texte. Je disais des choses de ce genre, sinon de cette façon et en ces termes, du moins, Seigneur, tu sais que ce jour-là, comme nous parlions ainsi, et que ce monde pour nous, au fil des paroles, perdait tout intérêt avec tous ses plaisirs. Ma mère dit alors, « Mon fils, en ce qui me concerne, plus rien n'a de charme pour moi dans cette vie. Que pourrais-je faire encore ici-bas? Pourquoi y serais-je? Je ne sais, je n'ai plus rien à espérer de ce siècle. Une seule chose me faisait désirer de rester assez longtemps dans cette vie, te voir chrétien catholique avant ma mort. » Catholique au sens confial, bien. Je suis plus que comblé dans ce que mon fils m'a accordé. Tu es allé jusqu'à mépriser les félicités de la terre et je te vois son serviteur. Qu'est-ce que je fais ici? La conclusion du texte exprime la réponse. La vie éternelle ne serait-elle pas telle que fut cet instant, mais qui durerait toujours? Et la conséquence pour Monique, le pressentiment de sa mort, appuyé sur sa réflexion, Dieu m'a comblé, qu'est-ce que je fais encore ici-bas? Le récit de la vision d'hostie est ainsi enclos. Comme vous l'avez remarqué, entre la question du départ, qu'est-elle la vie éternelle des saints, et la réponse formulée encore sous sa forme de question, ne serait-elle pas pareille à cet instant que nous avons connu? Et le récit de se développer en se dédoublant en deux relations, comme nous l'avons vu, qui exposent les deux faces de cette montée vers Dieu. La première est orientée vers la sagesse et procède par la conversation entre Monique et Augustin, suivant le chemin qui va du sensible à l'âme par la voie de l'intériorité jusqu'à la sagesse éternelle au-dessus de l'âme qui est la sagesse incréée, le verbe carrément dont parle Jean. Et la seconde relation procède par le moyen du silence progressif de l'âme pour écouter la parole directe du verbe. Ces deux voies, ces deux faces du dialogue aboutissent à une expérience identique touchant la sagesse et le Verbe qui sont le Christ. Dans les deux relations de la vision d'hostie, nous retrouvons la démarche ascendante par degrés selon la voie de l'intériorité qui avait été déjà suivie lors de l'illumination tout à l'heure de 1000 ans. Néanmoins, le fil qui relie ces étapes, le moteur qui commande l'ascension, a ici, à hostie, changé. Ce n'est plus la question de la beauté, mais c'est la question de la nature de la vie éternelle des saints, soit la version absolument chrétienne de la question du bonheur. Question du bonheur qui est pour Augustin, comme pour toute la pensée antique, l'origine même de la recherche et de la sagesse et de la philosophie. Et alors, ce que vous attendez, c'est maintenant, c'est la conclusion. Augustin, je vois quand même. Augustin uni, Augustin uni absolument en lui-même, d'une manière qui ne saurait se trouver chez aucun autre deux éléments de l'expérience chrétienne, c'est-à-dire la quête intellectuelle qui pénètre le plus profond dans les choses divines et un amour de Dieu qui est une passion dévorante. Chez lui, par sa puissance d'unification, il n'y a pas de séparation entre la foi et la raison, la philosophie et la théologie, l'intelligence et l'affectivité. Elles se compénètrent à tel point qu'on ne peut les disjoindre. Dès qu'un homme a réellement la foi, l'espérance et l'amour du Christ, la spiritualité est présente en lui, en son germe. Elle se développera comme une certaine connaissance et expérience personnelle de la réalité divine au sein de la vie de foi, de prière, de méditation, de l'écriture et de contemplation sous l'action de l'Esprit-Saint qui s'exerce sur l'intelligence comme sur la volonté, comme sur l'affectivité. La vie spirituelle suppose un contact reçu de Dieu, une certaine prise de conscience de sa présence et de son action dans l'âme et dans la vie, dans notre histoire. Mais en même temps que cette proximité, elle comporte le sentiment de la distance qui sépare l'homme de Dieu, de l'incapacité où est l'homme d'atteindre, de saisir Dieu, de se procurer par lui-même une expérience authentique de Dieu, quoique incoative. La perception aussi que l'action de Dieu en l'âme dépasse tout sentiment et que sa présence nous échappe dès que nous voulons nous en emparer. Le croyant est ainsi progressivement engagé, s'il suit les impulsions de l'Évangile, avec l'humilité des petits dont parle l'Évangile, dans un chemin authentique de spiritualité. La vision d'Hostie, entre autres, témoigne d'une expérience de Dieu par mode presque de toucher et d'atteinte qui s'origine directement à la foi, longuement formée en Augustin jusqu'à sa conversion, à l'espérance suscitant le désir de la vie éternelle et la question qui sous-tend tout le récit, et la charité qui poussait Augustin et sa mère à dépasser toutes les créatures. Mais, dans cette même expérience, ils éprouvent quelle distance les sépare encore de celui en qui sont fixées les prémices de leur esprit. Spiritualité absolument complète, parce qu'elle engage l'homme et nourrit toutes les facultés de l'homme. Expérience spirituelle décisive, car elle détermine l'orientation de tous les désirs et de toutes les activités d'une vie, et fait même surgir déjà une autre vie au cœur de celle-ci. La spiritualité d'Augustin est théologique, car elle réunit, on ne peut plus étroitement, la quête de l'intelligence et l'élan de l'amour au sein d'une même expérience de foi.